Bonjour Alain Bougrain-Dubourg.
Bonjour.
Président de la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux, vous signez également Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes, paru aux éditions Les Échappées. À vos côtés, Grégoire Loïs, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur adjoint du programme Vigie Nature au Muséum d'Histoire Naturelle. On parle ce matin de deux études publiées cette semaine par le CNRS et par le Muséum d'Histoire Naturelle. Et les deux études arrivent à des conclusions similaires. La disparition massive des oiseaux de nos campagnes. En moyenne, c'est un tiers des oiseaux qui a disparu en 15 ans. Grégoire Loïs, vous avez supervisé cette étude pour le Muséum d'Histoire Naturelle. D'abord, est-ce bien une catastrophe écologique majeure qui s'annonce ?
Oui, tout à fait. Une catastrophe inattendue presque. C'est-à-dire qu'on avait un déclin qui était continu depuis qu'on le mesure. Donc le début des années 70 en Angleterre et puis la fin des années 80 en France. Et là, ce qu'on constate, c'est un déclin qui s'accélère, qui se précipite sur les 15 dernières années, et notamment sur les deux dernières années.
Et aussi les années 2008-2009, mises en exergue dans cette étude du Muséum d'Histoire Naturelle. Pourquoi cette période précise ?
Un point d'infléchissement, c'est souvent assez difficile de déterminer des causalités. On fait des constats, on fait des corrélations, on a du mal à déterminer des causalités, notamment parce que les oiseaux sont assez résilients, assez plastiques en fait, assez adaptables, et qu'il peut y avoir un décalage entre un effet profond et les conséquences observées.
2008-2009.
C'est aussi la fin des jachères au plan européen, il faut quand même le rappeler, et ça a eu un impact immédiat. Vous savez, les oiseaux, comme l'ensemble du vivant, sont extrêmement dépendants du milieu naturel, et c'est toute l'affaire, on va le développer, j'imagine.
Oui, et parmi les oiseaux qui ont perdu une partie de leur population, il y a notamment l'alouette des champs. Est-ce qu'on sait pourquoi en particulier l'alouette des champs ?
Ben parce qu'elle est inféodée au milieu agricole, et c'est le milieu agricole intensif, qui emploie des pesticides à outrance affectent ces oiseaux. Je voudrais quand même ajouter qu'actuellement, l'alouette des champs, c'est un oiseau sur trois qui disparaît. Et dans le même temps, on constate que le gouvernement autorise ou poursuit une chasse où rien que sur 4 départements du sud-ouest, vous avez plus de 300 000 alouettes qui sont piégées à la matole ou au filet, plus 200 000 qui sont tuées au fusil. Alors je voudrais savoir à partir de quel moment on va arrêter de chasser des espèces en mauvais état de conservation. Actuellement, 66 espèces chassables, 20 espèces sur la liste rouge de l'Union internationale de conservation de la nature. Donc la résilience de la biodiversité ne se fera pas de cette manière.
Et arrêter la chasse, ce n'est pas un des marqueurs que met en évidence en ce moment le président Macron. Quels sont les autres oiseaux en déclin particulièrement touchés ?
Puisqu'on est sur les oiseaux ruraux, vraiment des milieux ruraux.
On parle de nos campagnes.
Voilà, exactement. Ce qui est particulièrement fort, c'est que la tourterelle des bois, la fameuse tourterelle des bois du Médoc, dont le chant accompagnait véritablement l'ambiance du mois de mai jusqu'au début juillet dans les campagnes françaises, maintenant c'est un silence, on n'entend plus ce ronronnement. On a des espèces comme ça qui vont vraiment ce qu'on appelle au tapis, quoi. C'est-à-dire que ce sera de l'histoire ancienne, la lutte contre la chasse de printemps dans le Médoc, simplement parce qu'il n'y a plus de tourterelles des bois. Et pourquoi il n'y a plus de tourterelles des bois ? Ce sont des oiseaux granivores. Ce sont des oiseaux granivores, la louette des champs, la tourterelle des bois. Les grands insectivores, on les a déjà perdus. Il y a 40 ans, les pigriages dans les campagnes, c'est quelque chose de devenu.
Cela dit, même les oiseaux granivores ont des périodes obligatoires d'insectivores.
Oui, notamment quand ils nourrissent les jeunes. Et alors, s'ajoute à tout cela, mais Grégoire pourrait l'expliquer, c'est le dérèglement climatique. On voit qu'il y a un décalage entre le pic de production des chenilles, dont les parents vont nourrir les poussins, et le nourrissage. C'est-à-dire, il y a pas loin de 3 semaines où il y a donc ce pic, et puis quand arrive la période de nourrissage, eh ben, il n'y a plus assez de chenilles pour nourrir les jeunes. Globalement, les oiseaux meurent de faim, parce qu'il n'y a plus les insectes, il y a eu trop d'insecticides. Il y a également des plantes qui manquent. Le rapport du CNRS du professeur Bretagnol est très très intéressant à ce niveau, parce qu'il parle des oiseaux qui ne sont pas seulement inféodés au milieu agricole et qui sont pourtant affectés, comme la tourterelle des bois dont vient de parler Grégoire.
Est-ce qu'il y a des régions de France plus touchées que d'autres dans cette raréfaction des oiseaux ?
Alors, on n'a pas une résolution très élevée parce que, en fait, c'est une macro-étude, c'est vraiment de la macro-écologie à grande échelle. Néanmoins, l'étude, effectivement, de nos collègues de Chizé, du CNRS, de Bretagnol, de l'équipe de Vincent Bretagnol, montre qu'en fait, à l'échelle locale, il y a effectivement, il semblerait que les zones de pratique intensive soient beaucoup plus affectées que les zones bocagères. Néanmoins, on a quand même un résultat moyen sur l'ensemble du territoire.
Et juste pour revenir aussi sur les différents marqueurs, sur la frise chronologique de cette raréfaction de la population d'oiseaux, vous le disiez, elle s'est accélérée encore il y a 2 ans, 2016-2017 également. Est-ce qu'on sait pourquoi à ce moment-là aussi ?
On a du mal à déterminer, comme je le disais, les causalités, parce qu'il peut y avoir des effets additifs ou multiplicatifs entre les causalités. En fait, on a parlé des jachères, on parle du dérèglement climatique, il faut aussi parler des néonicotinoïdes qui sont extrêmement puissants. Il y a eu cette étude en Allemagne à l'automne qui montre qu'il y a eu 70 à 80% de perte de biomasse, de poids en insectes, dans des zones plutôt protégées. Là, il se trouve que ce que constate Vincent Bretagnol et son équipe sur, par exemple, les carabes, c'est un déclin de 80% dans le même temps. Donc, en fait, ce qu'il peut y avoir, c'est un effet de seuil qui a été franchi et tout d'un coup, un espèce de vortex d'extinction ou de déclin.
Ouais. Est-ce que c'est irrémédiable ?
Écoutez, on est quand même mal barré à propos des néonicotinoïdes. Je voudrais indiquer que mardi prochain, à l'Assemblée nationale, avec des sénateurs et des parlementaires et des apiculteurs, on va lancer un appel, parce qu'en théorie, les néonicotinoïdes, ces pesticides, sont interdits à partir de septembre 2018. Sauf que on donne des dérogations. Et je voudrais...
Quelle dérogation, par exemple?
Permettant d'utiliser encore ces produits qui affectent le système nerveux des insectes, donc des abeilles, mais aussi des oiseaux, des mammifères, etc. Alors que l'Autorité européenne de la sécurité sanitaire s'oppose à l'usage de ces néonicotinoïdes, qui a une directive pesticides, qui doit conjuguer le développement durable. Et quand on parlait de la qualité du sol, il faut savoir quand même, ça me paraît révélateur, qu'on a des territoires où il y a une super agriculture, on va dire, où on n'a plus en biomasse dans la terre que 150-200 kilos de vers de terre, on va dire, l'hectare. Alors qu'en théorie, c'est 1 à 4 tonnes de biomasse, de vers de terre, en théorie, qui sont là. Donc on voit bien qu'on est dans une situation effrayante.
Dans la deuxième partie de l'interview, après la revue de presse d'Aurélien Colli, pardon, on va parler de la biodiversité qui est en question en ce moment à Medellin. On va parler aussi des plans biodiversité qu'Emmanuel Macron entend mettre en place bientôt. Vous avez rencontré, je crois, il y a récemment
Nicolas Hulot.
Quel discours a-t-il sur...
Il est effrayé, il convient qu'on a peut-être trop parlé, pas trop, du climat, mais que le climat fait un peu d'ombre à la biodiversité et que les deux questions ont la même valeur, quoi. Simplement, Nicolas, il a fait un discours admirable à l'Assemblée mercredi.
Oui, où il demande le soutien des députés.
Des députés et puis des citoyens. Il a raison, Nicolas. Simplement, moi je dis que fait l'État. Ça commence à bien faire. L'État, il nous dit, on va taper davantage de loups. On va organiser des chasses présidentielles. On va poursuivre la chasse, enfin développer la chasse aux oies jusqu'à fin janvier, alors que ça fait 11 fois consécutivement que le Conseil d'État condamne cette hypothèse qui se déroule au moment même où on engage la reproduction des oiseaux. Alors je voudrais qu'il y ait quand même d'autres signaux pour...
Qui soient envoyés par l'exécutif.
Voilà, imaginer une résilience du vivant.
Alain Bougrain-Dubourg, Grégoire, Loïs, on va reprendre donc cette interview dans quelques minutes après la revue de presse d'Aurélien Colli. Il y aura également les questions de Patricia Martin et les questions des auditeurs. La disparition massive des oiseaux de nos campagnes. Vos questions ce matin à Alain Bougrain-Dubourg, Grégoire, Loïs. Vous appelez, le standard est ouvert. C'est le 01 45 24 7000. Alain Bougrain-Dubourg, je cite votre livre, dernier livre en date. Ça s'appelle « Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes ». Et ça paraît aux éditions Les Échappées. À tout de suite. Et venez au standard, c'est le 01 45 24 7000, la disparition massive des oiseaux de nos campagnes. On en parle ce matin jusqu'à 9h avec Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue pour la protection des oiseaux. Vous signez votre dernier livre aussi, Alain, Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes. Ça paraît aux éditions Les Échappées. Et à nos côtés, autour de cette table également, Grégory Loïs, le directeur adjoint du programme Vigie Nature du Musée National de l'Histoire Naturelle. D'abord, Alain Bougrain-Dubourg, la question de côté de Patricia Martin.
Oui, mon cher Alain, en 1971, lors de la création du premier ministère de l'Environnement, Robert Poujade le qualifiait de ministère de l'impossible. Ouais. Diriez-vous la même chose, donc 48 ans plus tard, du ministère de la Transition écologique et solidaire ?
La réponse est oui. C'est incroyable de voir.
Nicolas Hulot est content s'il nous écoute.
Non, mais Nicolas Hulot, c'est bien. Il est ministre d'État, ça n'est pas rien. Et il n'a pas le pouvoir qu'il voudrait. Bercy peut financer un porte-avions. On n'est pas capable de réhabiliter l'Arche du Vivant qui prend l'eau.
Ça s'appelle la Realpolitik et ça existe depuis des siècles.
Bien sûr, mais on me pose la question sur ce singulier ministère.
S'il vous plaît, je vais poser la question.
Et je réponds que malheureusement, le ministère de la Transition écologique n'a pas les moyens de sa politique. Nicolas Hulot me disait, par exemple, que les aires marines protégées demandaient des bateaux, du personnel pour contrôler, pour faire des expertises, pour faire des suivis, etc. Il n'a pas les moyens. L'Agence pour la biodiversité n'a pas les moyens de, et les chercheurs, Dieu sait, Grégoire, bon, et tant d'autres. On est les enfants de Buffon, Cuvier et tant d'autres grands naturalistes, mais on voit bien que les anglo-saxons investissent davantage dans la connaissance et dans la résilience.
Mais si l'opinion publique est derrière Nicolas Hulot, alors là, ça pourrait lui donner davantage de poids.
Moi, je crois effectivement qu'il faut qu'elle se réveille et qu'elle peut influer. Je pense que les politiques n'ont pas compris qu'il y avait un mouvement formidable de la société sur deux thèmes. La biodiversité, le vivant qui nous entoure et la condition animale. Et ça, il faut, les politiques sont en retard d'un wagon. Alors on nous annonce effectivement un plan d'action biodiversité. Je m'en réjouis. Moi, je vois que la ville de Paris s'est engagée pour un programme jusqu'à 2024. Là, c'est du concret. Il y a d'autres villes qui l'ont fait, mais au plan national, ça n'est pas le cas. Et puis aussi, disons-le, vous avez des régions comme Rhône-Alpes Auvergne où on balance 3 millions d'euros aux chasseurs et on ne donne plus d'argent à beaucoup d'associations qui font de l'éducation à l'environnement, etc., qui sont obligées de licencier. Voilà, dans le Nord, même chose, etc.
Nicolas Hulot va présenter dans quelques semaines son plan pour la biodiversité. Il y aura évidemment encore quelques réticences. Elles seront où, ces réticences? Chez les agriculteurs, notamment?
Oui. Un constat qu'on peut faire dans les états généraux de la consommation, c'était une idée de Nicolas Hulot du reste, qui lui a un peu échappé, il faut
bien
le dire.
Ça fait pchit à vos goûts
ça a un résultat positif pour les paysans, et c'est très bien que les paysans gagnent leur vie à leur juste mesure, c'est bien la moindre des choses. Simplement, on devait revisiter le modèle agricole, et ça n'a pas été le cas. La FNSEA continue d'avoir autorité sur le ministre de l'Agriculture, on devait, sur la condition animale, intégrer cette question. Vous vous rendez compte que même le fait de mettre des caméras dans les abattoirs, qui a été voté à l'Assemblée nationale il y a quasiment un an par Falorni, eh bien, n'a pas été suivi dans les états généraux de la consommation. Donc, c'est désespérant. Et pendant ce temps, il y a une marmite de souffrance d'animaux qui est là et on met le couvercle dessus. Pendant ce temps, le vivant qui nous entoure est en train d'agoniser, c'est aussi grave que le climat, je vous le dis.
Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue de protection des oiseaux, et Grégoire Loïs, le directeur adjoint du programme Viginature au musée d'histoire naturelle. On va aller au standard avec une première question d'auditeur. Catherine est en ligne. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Ma question est la suivante. Nous habitons dans l'Indre, où un grand développement de parcs éoliennes géantes se développe et on s'étonne beaucoup de la proximité de ces implantations près des massifs forestiers. Nous sommes dans un couloir de migratoire de grues cendrées, pardon, et nous constatons quand même...
Grues cendrées, hein.
Oui, les grues cendrées.
Font la diagonale.
Voilà, c'est ça, on est en plein dedans et ces éoliennes massives et géantes s'implantent, et on remarque quand même des bouleversements, il y a aussi des rapaces, le cirquet de Jean Leblanc qui sont présents près de ces forêts. Évidemment, nous sommes à quelques kilomètres du parc national régional de la Brenne. Nous ne sommes pas en zone Natura 2000. Et puis donc, les enquêtes à vie faune sont quand même un peu louches. Sachant aussi qu'un grand massacre de chauves-souris est là, près de ces géantes. Nous le savons.
On va se concentrer sur les parcs éoliens. Alain Bougrain-Dubourg, il faut plus de précautions quand on installe des parcs éoliens.
C'est la moindre des choses. C'est tout le paradoxe des énergies renouvelables. Évidemment, on est favorable, mais pas n'importe où, pas n'importe comment. Et si madame a parlé des chauves-souris, c'est qu'on a pu démontrer, en faisant des suivis sur l'impact des éoliennes sur la biodiversité, que les chiroptères, les chauves-souris, étaient très très affectés par ces modèles. Alors nous, il y a un rejet très clair, c'est l'installation de parcs éoliens dans les ZPS, les zones de protection spéciale, c'est-à-dire des zones sensibles.
Oui, tout à fait. C'est un des effets qui a été montré, c'est non seulement des victimes directes par collision, mais aussi une désertion des habitats autour. Donc l'implantation, le choix des implantations est absolument capital pour poser un champ éolien. La France a un potentiel éolien apparemment qui est considérable.
Et en mer également.
Et en mer également, mais néanmoins le choix des implantations est vraiment capital. Il peut y avoir des désertions d'habitats.
Dans tous ces propos que l'on tient ce matin, on voit bien que c'est la biodiversité qui est en question. En Colombie, en ce moment, des scientifiques du monde entier de la biodiversité sont en train de lancer une alerte majeure à travers une plateforme mondiale et gouvernementale qui s'appelle l'IPBES. Et ils publient toute une série de rapports, tous plus catastrophiques les uns que les autres, sur l'état de la biodiversité à travers la planète. Et en Afrique, par exemple, dit l'IPBES, plus de la moitié des espèces d'oiseaux et des mammifères seront perdues d'ici 2100. Alain Bougrain-Dubourg, Afrique, Europe, même combat pour sauver la biodiversité.
Oui, pour des raisons différentes. Vous parlez de l'Afrique, par exemple, l'IPBES vient de révéler que c'est surtout le développement de la population, l'occupation des espaces qui pose davantage problème. Chez nous, c'est à l'évidence les insecticides. Je voudrais pas plomber la matinée, mais quand même. Il faut qu'on soit lucide des réalités que nous dit la Fondation pour la recherche sur la biodiversité qui représente en France l'IPBES. La population des espèces aquatique a diminué de 81%. Les zones humides ont diminué de 87%. 66% des habitats marins ont un niveau de conservation défavorable. 75 espèces des races d'oiseaux domestiques européens, parce que ben, ça compte aussi, sont menacées d'extinction. En quatre décennies, la population des vertébrés terrestres sauvages a diminué de 38%. C'est effrayant. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'autant on a conscience de la question climatique, parce qu'on voit bien avec l'accélération et l'intensité des événements, les sécheresses, les inondations, que ça nous affecte. Et on a des réponses d'une certaine manière. On se dit, on va économiser l'énergie, on va faire du covoiturage, etc. Sur la biodiversité. Mais si l'outarde canepetière, le vison d'Europe, le tartu d'Hermann disparaissent, on n'en est même pas au courant. C'est un mur du vivant où on retire les pierres les unes après les autres. Et puis on ne sait pas comment réagir. Comment je fais, moi, pour sauver la biodiversité? On peut faire un refuge LPO, créer des mares. Mais le problème, on le disait, Grégoire le disait, c'est une multitude de choses. L'artificialisation, 70 000 hectares de béton et d'asphalte qui rongent les terres agricoles et naturelles chaque année. Les zones humides, on a perdu la moitié des zones humides mis en France en trois décennies. Donc ça, c'est l'État qui doit bouger aussi.
Et c'est la vocation de cette IPBES, cette plateforme IPBES qui est à la biodiversité, ce que le GIEC est pour le climat. On va retourner au standard avec une question de Michel. Michel, bonjour Michel.
Bonjour,
quelle est votre question?
Alors moi, ma question, c'est que j'habite dans le Gers, on a une femme pédagogique, et donc je suis très passionnée par la nature et de transmettre cette passion aux enfants et aux jeunes qui viennent nous voir. Et la question que je me pose, c'est que on a pas mal d'oiseaux tout autour, et je leur donne à manger donc l'hiver, je mets des mangeoires donc pour les mésanges, rouge-gorge, pinsons et autres. Et je voulais savoir si, du coup, en se disant, il y a moins d'oiseaux, est-ce que je continue à leur donner à manger ou est-ce que ça ne remet pas en cause le fait qu'au printemps, j'arrête?
Bonne question.
Il y a plusieurs écoles, hein, Grégoire, tu peux répondre?
Oui, alors, je dirais bien sûr,
Grégoire,
évidemment.
Louis, je rappelle que vous êtes le directeur adjoint du programme Viginature au Muséum d'Histoire Naturelle. Votre point de vue?
Évidemment, oui, continuer de donner à manger. Il peut y avoir des petits problèmes d'hygiène. On a vu qu'il y avait de la mortalité de verdier. Les verdiers, c'est un petit passereau qui vient souvent à la mangeoire et qui peut se retrouver contaminé. Mais néanmoins, c'est aussi par ce type d'action qu'on se reconnecte à la nature. C'est-à-dire que vous gardez le contact, en fait. Et du coup, vous n'allez pas être insensible. Et d'ailleurs, vous ne l'êtes pas, vous réagissez, vous n'allez pas être insensible. Donc moi, j'ai envie de dire, mais multiplions le nourrissage à la mangeoire parce que c'est un moyen de ne pas être indifférent quand la tortue d'Hermann, que probablement, il n'y a pas un Français sur 100 qui l'a vu, en réalité, disparaît.
Alain Beaugrain-Dubourg, vous n'avez pas forcément le même point de vue.
Non, non, moi je partage. Ah bon ? Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de naturalistes qui disent « Non, non, faut arrêter au printemps, on ne nourrit les oiseaux que quand il y a des conditions climatiques extrêmes, là où ils peuvent pas trouver leur nourriture. Un oiseau peut perdre la moitié de son poids en une nuit. Hein. » Donc, à partir du moment où il n'a pas l'alimentation nécessaire. Ce sont des formulins, les oiseaux. Ce sont des machines
calories
biologiques extraordinaires. Donc, ils ont besoin de manger tout le temps. Voilà. Et au printemps, on se dit, il faut laisser faire la nature. Mais bon,
c'est
tellement génial d'avoir une mangeoire et une envolée d'oiseaux.
Oui, Grégoire.
Et puis, malheureusement, on laisse faire la nature. Mais bon, le constat, là, c'est qu'on a perdu un tiers des oiseaux de nos campagnes. Ouais. Donc, en fait, ce qui se passe dans la nature n'est pas suffisant. Alors, je dis pas que la contribution au nourrissage va changer quelque chose dans les jardins, puisque c'est pas le même endroit. Mais on garde le contact avec les oiseaux et par ailleurs, ça permet d'être concerné.
Grégoire Loïs du Muséum d'Histoire Naturelle. Au standard, Véronique est en ligne. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où ?
De la Manche.
Et quelle est votre question ?
Merci de me passer l'antenne. Ma question, c'est que quand on parle de préserver les oiseaux, il faut aussi préserver les endroits où ils vivent. Et ici, moi j'habite la Manche. Et il se passe un phénomène qui a pour conséquence la disparition des oiseaux, c'est l'abattage des talus, la disparition du bocage en fait, parce que ici dans le sud de Manche, on abat les talus, on abat les arbres pour agrandir les champs, parce que les fermes deviennent plus grandes, les cultivateurs font plus de cultures qu'avant, plutôt que de faire de l'élevage, donc ils n'ont plus besoin des talus ni des arbres qui étaient dessus. Et du coup, c'est des endroits où vivaient les oiseaux qui disparaissent.
Merci,
et en plus, c'est le bocage qui disparaît.
Le bocage disparaît, c'est mauvais, c'est moche à l'œil. Et en plus, c'est négatif
pour les oiseaux. C'est le roman qui a fait un tort considérable à toute la petite faune, pas seulement les oiseaux du reste. Et je dois rendre hommage à certains agriculteurs avec qui on travaille et qui, paradoxalement, alors qu'on désertifie dans certains endroits, bien replantent des haies et réinstallent de la biodiversité dans leur
exploitation.
Surtout
en Normandie où elles sont légions en principe, Grégoire et Loïs.
Oui, ça paraît complètement aberrant le rôle des talus, des fossés pour la biodiversité mais aussi pour lutter contre les inondations, a été démontré depuis longtemps. Marie-Charlotte Saint-Giron, qui a disparu depuis longtemps, qui était mammologue, avait montré qu'il y avait une baisse de la biodiversité énorme sur les petits mammifères à cause du remembrement. Par ailleurs, dans certains endroits de France, on paye pour recréer des haies, c'est-à-dire qu'il y a des mesures agro-environnementales qui sont financées avec de l'argent public. Peut-être qu'il est temps, à un moment, qu'on paye les agriculteurs pour le rôle qu'ils ont à maintenir la biodiversité. Et pas seulement à produire.
Voilà pour ce constat assez noir qu'on a fait ce matin. Cela dit, il y a des espèces qui ne se portent pas si mal dans les oiseaux. C'est le cas par exemple de la corneille noire, dont les populations, paraît-il, restent stables. Ça marche aussi pour le pigeon ramier. On va terminer sur cette... Non, vous mettez un petit bémol.
Si, tout à fait, tout à fait. Non, mais il y a des espèces pour lesquelles ça se passe bien. Celles qui ont été protégées en 1976, strictement, les rapaces par exemple.
Merci Grégoire Loïs, donc directeur adjoint du programme Viginature au Muséum d'Histoire Naturelle. Et merci Alain Beaugrain-Dubourg. Je signale une dernière fois votre dernier livre, Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des
formidable
bêtes.
Formidable livre.
Et commentaire de Patricia Martin. Et c'est aux éditions Les Échappées. Merci à tous les deux. Merci. Et bonne journée.